Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ok, que le nom du Seigneur soit béni. On va s'approcher de la parole ce matin ensemble. Et je voudrais continuer à observer certaines vérités, certains principes concernant le sujet qu'on a commencé à aborder dernièrement, à savoir le royaume de Dieu, à savoir chercher premièrement le royaume. Et j'aimerais qu'ensemble on réalise et on se laisse encore un petit peu plus ajuster par le Seigneur sur comment le royaume de Dieu peut être une réalité dans notre vie. Et la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'avais commencé à parler sur le royaume de Dieu. Je vous avais montré que Jésus nous demande de chercher d'abord ou premièrement le royaume de Dieu et que toute chose serait donnée par-dessus. Je vous avais montré également que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec un objectif, avec un but, avec une pensée. Et en fait, il a créé l'homme et il a donné ensuite à l'homme un ordre ou une mission qui était de dominer sur la terre. Dominer sur la terre, dominer sur les animaux. Je vous rappelle la parenthèse que j'avais faite, à aucun moment il n'a dit à l'homme de dominer sur l'homme. Et on avait vu que tout au long de l'écriture, on retrouve ce principe. Et on voit que par le péché, l'homme a délégué ou bien a cédé son autorité au diable, ce qui fait qu'aujourd'hui le diable peut agir sur la terre, mais il ne peut agir que dans la mesure, je vous rappelle, où nous en tant qu'hommes, nous lui déléguons cette autorité. Mais Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour nous restaurer dans la position que Dieu avait originellement prévue pour nous. C'est-à-dire que par l'œuvre de Christ et par ce qu'on appelle la rédemption, nous pouvons vivre dans la position que Dieu a prévue pour nous, qui est une position d'autorité, qui est une position dans laquelle nous devons amener le règne de Dieu sur la terre. Je vous avais montré que dans l'Épître aux Romains, à un moment, Dieu nous montre qu'il voulait que l'homme puisse régner dans la vie. Et on s'est rendu compte que régner dans la vie, ça ne voulait pas non plus dire faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on aurait une autorité, mais ça veut dire recevoir la directive divine, recevoir les ordres de Dieu et puis les mettre en application dans notre vie. C'est à peu près les principes généraux qu'on avait observés la semaine dernière. On avait vu que c'était vraiment la volonté et le désir de Dieu que ses enfants, ou que l'homme en fait en général, puisse exercer l'autorité de Dieu ou le règne sur la terre. Vous avez montré que l'Église ou la vie chrétienne, c'était beaucoup plus qu'une espèce de vie religieuse, mais que la vie chrétienne ou l'Église, c'était censé être la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et ce matin, je voudrais encore un petit peu plus avancer là-dessus avec vous. Et je vous propose pour ce faire de revenir à Matthieu 6. Matthieu 6, qui est un petit peu comme un passage de référence pour notre sujet. Matthieu 6, et on va y lire deux passages. Premièrement, Matthieu 6, 33, que vous commencez à connaître et qui nous sert vraiment de base et de fondement. Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et je vous rappelle aussi, parce qu'il est question ici de provision et d'inquiétude, enfin de se confier en Dieu, qu'on avait vu la dernière fois que bien souvent, si certaines choses ne se réalisent pas comme elles se devraient dans notre vie, c'est parce que nous avons permis à d'autres choses de dominer sur nous. Et on avait conclu, je crois, en disant qu'il était temps aussi que nous revenions sous la domination de Christ pour que nous prenions notre position de domination. Et j'aimerais que nous allions maintenant un petit peu avant dans Matthieu 6 et au verset 10. Et en fait, Jésus est en train ici d'enseigner sur la prière. Et je pense qu'on a tous appris, enfin, je ne sais pas quel est votre arrière-plan chrétien ou religieux, mais en tout cas, moi, on m'a fait apprendre par cœur cette prière qu'on appelle le Notre Père, qui est en fait une bonne prière. Hein. Mais Jésus, ici, enseigne sur la prière, mais il va dire quelque chose d'extraordinaire au verset 10. Matthieu 6, 10, il dira « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai entendu des dizaines de milliers de personnes prier cette prière très régulièrement, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante, que ce soit l'Église évangélique, on prie cette prière et on dit que c'est l'exemple de prière de Jésus. Mais il y a un moment où je me pose la question et je me dis, mais ça fait plus de 2000 ans que des milliards de personnes prient, en fait plus que prier, récitent cette prière et disent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais en fait il ne se passe pas grand-chose. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe, moi j'ai pas le sentiment que le temps passant, le règne de Dieu se fait plus grand. Et je ne veux pas avoir une vision pessimiste, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que des fois, nous faisons des choses, nous avons des rituels, nous faisons des prières, nous disons des choses qui sont justes bibliquement, mais qui n'ont aucune puissance parce que nous ne faisons que répéter un espèce de petit exercice. Et si nous prenions un petit peu conscience de ce que nous disons, quand vous priez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pas juste quelque chose comme ça d'anodin ou d'hasardeux, c'est puissant, il y a une puissance dans ces paroles. Que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on réfléchit un petit instant, on va se rendre compte que lorsque Jésus nous fait prier ces choses-là, il ne le fait pas seulement pour que nous nous attendions à ce qu'entre guillemets ça nous tombe dessus, mais il le fait et en même temps il nous engage à faire en sorte que le règne de Dieu vienne et que sa volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Nous sommes engagés dans un processus pour que cela se réalise. Et si vous reprenez, je ne vais pas les reprendre tout parce qu'on l'a fait la semaine dernière, mais avec les différents passages qu'on avait observés, on voyait que Dieu a donné à l'homme l'autorité, eh bien Dieu ne va pas lui-même, entre guillemets, faire tomber sur nous une espèce de je ne sais pas quoi pour faire son règne venir. Dieu s'attend à ce que son peuple, ses enfants, ses rachetés, soient ceux par qui son règne s'établisse sur la terre et que sa volonté se fasse comme au ciel. Vous savez, parfois on dit oui, mais ça, tant qu'on est sur la terre, bon, on ne peut pas s'attendre à telle ou telle chose parce qu'on est sur la terre. Ben, ce n'est pas exactement ce que Jésus dit ici. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc pour que cette volonté se réalise, il est important que nous entrions dans cette dynamique où nous prenons conscience que nous sommes les représentants de Christ, nous sommes ceux par qui le règne de Dieu doit s'établir sur la terre. Je vous rappelle que le grand en bas, on appelle, de Matthieu 28 et Marc 16, nous montre que nous devons amener dans ce monde la bonne nouvelle. Et je vous rappelle également que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce que nous appelons l'évangile, c'est-à-dire ce n'est pas seulement Christ est mort, Christ est ressuscité et vous pouvez être sauvé, c'est aussi le royaume de Dieu. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre et alors viendra la fin. Donc oui, c'est vrai, nous devons prêcher Christ mort, Christ ressuscité, et que ça nous donne accès au salut. Mais après le salut, nous devons aussi prêcher, enseigner, vivre et manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et vous savez, souvent dans l'Église, en général, on nous a enseigné comment faire en sorte d'être prêt quand Jésus viendra nous enlever. On nous a enseigné comment faire pour ne pas tomber dans les choses du monde. On nous enseigne toujours, oui, il faut vous séparer du monde, il faut vous mettre à part. Et à la base, c'est vrai, mais poussé à l'extrême, c'est faux. Parce que l'enseignement de Jésus, c'est pas « mettez-vous à part du monde », l'enseignement de Jésus, c'est plutôt « allez, faites des nations des disciples », c'est-à-dire, on pourrait dire « allez, envahissez le monde avec le royaume, avec le message, avec la culture, avec la puissance du royaume de Dieu ». Et nous, Église, on a dit « restez là et attendez gentiment que le Seigneur revienne pour surtout ne pas être pris par le monde ». Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont peur du monde. Alors que normalement, si nous sommes établis dans notre identité en Christ, nous n'avons pas à craindre le monde. Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Enfin, la parole abonde de paroles pour nous encourager à aller au-devant du monde. Non pas pour nous y mélanger, mais au contraire pour y amener le royaume de Dieu. Et ça, c'est une réalité importante que Dieu est en train de restaurer. Et j'avais parlé de réforme. Et l'un des sens du mot réforme, ça veut dire remettre au droit. Des fois, nous parlons que Dieu réforme l'Église. Et l'autre fois, j'ai dit que réformer, c'est aussi un processus pour passer d'une situation ou d'un état à de nouvelles capacités, à de nouvelles réalités. Mais réformer, c'est aussi remettre au droit ou redresser. Et le Saint-Esprit est en train, au sein de son Église, de redresser des vérités, de remettre au droit son peuple. Et la meilleure chose pour nous, c'est de se laisser redresser par lui. Et j'avais cette réflexion l'autre jour que si vous prenez un morceau de métal qui est tordu et si vous essayez de le redresser, et bien si le métal est dur et qu'il est même parfois déjà rouillé et qu'il résiste, finalement qu'est-ce qui va se passer? Ça va craquer, ça va se casser. Par contre si vous prenez un métal qui est plus souple ou bien si vous prenez un métal que vous chauffez avec un chalumeau ou autre, vous allez pouvoir le redresser et il va se remettre droit. Et on a besoin, je crois, de se laisser par moments un petit peu défié par le Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, de se laisser des fois un petit peu chauffer ou secouer par le feu de Dieu pour que Dieu puisse nous remettre droit. Parce qu'un moment viendra, comme dit la parole, où on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et en fait, il y a un moment où le désir de Dieu, c'est de redresser toute son Église. Et à un moment, j'avais cette pensée erronée où je me disais, bah, ceux qui ne veulent pas, ils vont rester comme ça, tant pis. Mais en fait, ce n'est même pas vrai. Ceux qui ne veulent pas, à un moment, bah, ça va craquer, ils seront brisés. C'est pour ça qu'Éphésiens 4 nous montre que Dieu établit dans l'Église des ministères pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Et on a besoin de prendre conscience de ça. On ne peut pas juste se contenter d'être là et puis d'attendre que ça se passe. On a besoin de se réaligner sur le plan de Dieu, de se laisser remettre droit dans les plans que Dieu a voulu pour nous. Parce que beaucoup, beaucoup de vérités et beaucoup d'objectifs de Dieu ont été comme déformés ou détournés. Parce qu'on a mixé tout ça avec une espèce de sauce religieuse. Et donc quand, par exemple, Jésus dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », eh bien, il y a certains endroits où on a mixé ça avec une sauce et on dit « Il faut juste prier pour eux, un jour ils viendront ». Ce n'est pas exactement le message. Ou alors on fait de l'évangélisation, mais il n'y a que les chrétiens qui sont là, parce qu'on a oublié qu'il fallait aller et pas attendre que les gens viennent. Ou bien quand la parole déclare qu'en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, alors on mixe ça avec la sauce religieuse, on dit « Mais non, mais les langues aujourd'hui, ça servait que pour, au début, il fallait qu'il y ait des miracles pour que les gens croient, et aujourd'hui on n'a plus besoin de ça ». C'est la même chose pour chasser les démons ou pour guérir les malades. On mixe tout ça avec une espèce de sauce religieuse pour essayer d'expliquer. Mais je suis désolé, quand Dieu dit que ceux qui croient iront et qui seront accompagnés de signes, de prodiges et de miracles, y compris de parler en langue, de chasser des démons, même de saisir des serpents, même de boire des breuvages mortels qui ne vous feront pas de mal, et de faire toutes ces choses-là, c'est parce qu'il veut que ça se réalise. Et c'est vrai, c'était vrai au temps de Jésus, mais c'est vrai aujourd'hui, en 2010, après Jésus-Christ. Parce qu'il faudra quand même que vous me démontriez, sinon, comment vous expliquer que les gens n'aient pas besoin de miracles. Les gens ont besoin du surnaturel dans leur vie. Les gens n'ont pas besoin d'une religion ou d'un discours. Les gens ont besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Et comment restaurer la manifestation de la puissance de Dieu? Comment restaurer une dimension régulière et élevée de signes, prodiges et miracles? Eh bien, c'est en nous repositionnant et en réalisant dans quoi nous sommes engagés. C'est vrai que nous ne sommes pas juste engagés dans un petit truc religieux, nous sommes engagés dans le royaume de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous montrer deux, trois choses en particulier au sujet de l'Église. Et pour ce faire, je vous propose de regarder ensemble dans Matthieu, toujours, mais au chapitre 16. Matthieu 16. Et on va prendre au verset 18. Vous savez, Dieu a le désir, je l'ai dit, on l'a montré la dernière fois, d'étendre son règne sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et là, Jésus va nous montrer comment, en fait, cela devient possible. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Donc, en deux mots ici, bon, c'est un échange entre Jésus et Pierre qui sont en train de parler. Et puis Pierre reçoit cette révélation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus va lui dire, ben, « Effectivement, et ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père ». Et il va lui dire au verset 18, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Et je voudrais surtout appuyer sur « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on pourrait en tirer, mais je veux mettre l'accent sur « Je bâtirai mon Église. » Donc un, l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation qu'il est le Christ et le Fils de Dieu. Mais Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Jésus n'a pas dit « Je bâtirai l'Église ». Il dit « Je bâtirai mon Église ». Et ça, ça laisse entendre que l'Église ou le concept ou la notion d'Église, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. L'Église de Jésus-Christ n'existait pas, mais l'Église, ça existait. Vous allez comprendre pourquoi. Le mot « Église » ici, c'est un terme qui vient du grec « ecclésia ». Et ce mot « ecclésia », alors ça veut dire plusieurs choses. D'une part, ça veut dire un rassemblement de personnes ou une assemblée. Et ça veut dire des gens appelés hors d'eux. C'est-à-dire des gens qu'on a pris quelque part, qu'on les a tirés de là et on les a amenés. Une ecclésia, c'est ça. Une ecclésia, c'est une assemblée de personnes qui ont été appelées hors de quelque part ou de quelque chose. Ça, c'est le sens étymologique du terme. Donc déjà, une première déduction qu'on peut prendre en tant qu'Église, c'est de dire, effectivement, Christ nous a appelés du monde et à venir nous assembler pour être son Église. Ou bien Christ nous a appelés de l'Égypte, qu'on appelle l'esclavage du péché et de la mort, pour nous amener dans ce qu'on pourrait appeler le pays promis, c'est-à-dire son royaume. Ou alors Jésus nous a appelés, d'ailleurs c'est écrit clairement dans la parole, du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est écrit comme ça dans Colossiens. Donc ça c'est une première application, mais ce n'est pas la seule. Le sens du mot « ecclésia », donc à l'époque, déjà à l'époque où Jésus parle, en fait c'était une assemblée de citoyens qui se rencontraient pour débattre des questions, des problèmes, ou pour statuer sur les questions actuelles de la cité de laquelle ils étaient. Donc, c'est-à-dire que c'était même, excusez-moi du peu, mais c'était une espèce d'assemblée politique en fait. C'était des citoyens d'un endroit qui se rassemblaient et qui traitaient les questions courantes de cet endroit. Et ces assemblées, ces ecclésias, elles étaient dotées d'une autorité. C'est-à-dire que les ecclésias, ou les assemblées, pouvaient prendre des décisions et elles allaient s'appliquer dans la cité ensuite. L'ecclésia, en fait, c'était l'assemblée de quelques hommes de la cité qui étaient choisis pour ça et qui s'asseyaient, qui prenaient les décisions qui allaient ensuite s'appliquer dans la cité donnée. Donc quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il ne dit pas « je bâtirai une institution religieuse ». Dans l'esprit des gens qui l'écoutaient, quand il dit « ecclésia », ils savent de quoi on parle. Et c'est comme si Jésus disait « je bâtirai mon assemblée qui traitera les questions de la vie et qui prendra des décisions ». Et un terme qui peut vraiment englober cette notion, c'est en fait le gouvernement. Et Jésus ici dit « je bâtirai mon gouvernement ». C'est quand même autre chose que juste un petit endroit où on vient chanter, prier, puis passer quelques instants où on se sent bien et puis on repart chez soi. L'Église, dans la pensée de Dieu, c'est un gouvernement. Et quand on parle de gouvernement ou d'assemblée, il y a toutes les notions aussi d'influence. Il y a une notion d'autorité. Il y a une notion de manifestation en fait du royaume. Et pour bien comprendre ou pour résumer ce que c'est que quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », on pourrait dire que Jésus bâtit son Église, Jésus bâtit une assemblée d'hommes et de femmes appelés hors du monde, appelés hors des ténèbres, hors de la malédiction et tout ça, pour statuer ou pour s'occuper des affaires avec la mentalité, les principes et les lois du royaume de Dieu. Les ecclésias, dans un lieu donné, effectivement, elles prenaient des décisions, elles traitaient les problèmes, mais elles le faisaient sur la base des lois existantes. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas juste comme ça de décider au hasard. Ils avaient les lois en face d'eux et ils jugeaient vis-à-vis de la loi comment traiter les situations. Et de la même manière, en tant qu'Église, nous sommes l'Assemblée de Dieu, nous sommes ce gouvernement qui est appelé à régler les problèmes de la vie, de la société, des choses qui nous entourent à la lumière de la loi qui existe. Et la loi qui existe pour nous, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Donc nous sommes un gouvernement. Nous devons nous occuper des affaires du royaume de Dieu et influencer notre environnement avec la mentalité et les manifestations du royaume de Dieu. Alors, la mentalité du royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on peut voir dans la Bible qui nous montre comment nous devons vivre. Quelle doit être notre manière de penser ? Quelle doit être notre manière d'agir ? Quel doit être notre comportement ? Tout ça, c'est la mentalité. Et après, l'influence ou la manifestation du royaume, c'est en fait toutes les choses comme par exemple la puissance du Saint-Esprit, comme les miracles, comme de parler en langue, comme de chasser des démons, comme de faire des guérisons, ou bien comme les réunions qu'on a, tout ça, ce sont des manifestations du royaume. Donc l'Église, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas un petit truc religieux, c'est un gouvernement. C'est une assemblée qui va avoir de l'influence. Et l'Église, c'est bien sûr l'Église comme un ensemble, c'est aussi l'assemblée locale, mais c'est aussi nous en tant que pierre vivante qui formons l'Église. Et à chacun, il y a un domaine qui est donné. En tant qu'individu, nous avons autorité pour agir sur notre vie et sur notre environnement immédiat. En tant qu'église locale, Dieu nous a établis, et en tant qu'église universelle, le corps de Christ, pour influencer en fait la terre entière avec le royaume de Dieu. Je voudrais qu'on regarde encore deux passages, c'est dans Éphésiens 3, et voir que cette notion est confirmée dans d'autres endroits de l'Écriture. Éphésiens 3, on va prendre à partir du verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, » donc c'est Paul qui parle, « Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a choisi que par son Église sur la terre, la sagesse de Dieu soit révélée. Donc l'Église, c'est l'endroit où Dieu veut que sa sagesse soit annoncée, révélée, manifestée, reflétée. Une dimension largement supérieure que celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. À travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu doit être révélée. Je crois que c'est un haut standard que Dieu positionne. Est-ce que, en regardant à l'Église, on a une image de la sagesse infiniment variée de Dieu ? Moi, personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on doit encore grandir dans ce domaine. Parce que si la sagesse infiniment variée de Dieu doit être révélée par l'Église, ça veut dire qu'à mesure que les gens sont au contact de l'Église et participant à l'Église, ils doivent grandir en sagesse, en maturité, et ça doit commencer à se voir sur eux et autour d'eux. Et à un moment donné, même les gens du monde doivent commencer à regarder, à dire « Waouh, mais on a besoin de cette sagesse-là » et commencer à venir chercher la sagesse, à venir chercher le conseil, à venir chercher l'intelligence dans l'Église. Aujourd'hui, les gens croient pouvoir trouver un niveau plus élevé de connaissances ou de développement en faisant des choses comme la franc-maçonnerie, en faisant des choses comme l'église de Scientologie et des histoires comme ça. Ça m'est égal, j'ai pas peur de les nommer. Et aujourd'hui, les politiques se tournent vers ce genre de choses. Et les gens influents de ce monde, les grands chefs d'entreprise ou même les gens qui sont en position d'autorité, même des enseignants, des gens éduqués, se tournent vers ce genre de mouvement. Parce qu'ils me disent que ça répond, parce que moi je suis quelqu'un d'intelligent. Et excusez-moi, mais j'ai même des fois entendu des réflexions, des gens disent mais moi je vais pas à l'église parce que l'église on aurait dit que c'est fait pour les... Excusez-moi, hein, mais que c'est fait pour les idiots, pour les amoindris. Parce que le message de l'église il n'a pas de teneur. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que cette personne-là a dit. C'est peut-être un peu poussé. Mais en même temps, on peut se poser la question. L'église... Est-ce qu'elle a un message qui provoque quelque chose dans la vie des gens aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a un message qui peut venir à la fois concerner la personne la plus simple de cette terre qui n'est pas éduquée et à la fois la personne la plus intelligente et la plus éduquée ? L'évangile a cette puissance. Vous savez, Jésus, il s'adressait aussi bien à des gens sans éducation, à des gens simples, à des gens qui connaissaient rien, même à des gens qui étaient rejetés, qui traînaient sur le bord des chemins, mais aussi bien les scribes et les pharisiens qui étaient extrêmement instruits, ils comprenaient quand même. Enfin, ils comprenaient, ils n'acceptaient pas spirituellement ce que Jésus disait, mais Jésus avait un message qui touchait aussi ces gens-là. Et dans les actes aussi, les apôtres ont un message qui va toucher à la fois le commun des mortels, si on peut dire ça comme ça, c'est qui va toucher tout le monde, mais qui va aussi toucher des gens influents. Il y a cette déclaration à un moment dans Actes 8 où il est dit que ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Parce que les apôtres, quand ils ont commencé à aller prêcher la bonne nouvelle, ils n'ont pas juste prêché uniquement le salut, ce qui est déjà puissant, mais ils ont amené avec eux une mentalité du royaume de Dieu. Ils ont amené avec eux une influence qui fait que les gens disent « Mais eux, là, ils sont en train de bouleverser le monde. » Et je pense que nous devons nous laisser vraiment entraîner par le Seigneur et comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et revenir à un moment où le monde qui nous entoure puisse dire « Mais ils sont en train de bouleverser le monde. » Vous savez, aujourd'hui, l'Église ne dérange pas tellement les gens parce que bon, on fait nos petites affaires dans notre coin. Et bien souvent, on ne dérange même pas le diable parce qu'on fait nos petites affaires. Mais ce que Jésus est venu établir, c'est son Église, son Ecclésia, son gouvernement. Quelque chose qui va venir insuffler au monde la connaissance de qui il est, la mentalité du royaume de Dieu et aussi manifester ce royaume à travers la guérison, à travers la puissance, à travers toutes ces choses-là. Et il est temps que nous comprenions ces choses-là et que nous sortions de toute cette poussière religieuse dans laquelle on est trop pris. Je crois qu'on doit apprendre à se laisser réajuster par Dieu. J'ai toujours eu un petit peu un esprit réformateur. Et plusieurs m'ont dit, mais toi, t'es toujours en train de secouer le cocotier, là. Et si on doit un moment un petit peu lâcher notre confort en reproduisant ce qu'on a toujours fait et qu'on a considéré que c'était l'Église, c'est un petit peu difficile, c'est inconfortable. Mais quand on commence à embrasser le plan de Dieu et qu'on commence à voir les perspectives que ça ouvre, mais franchement, pour rien au monde, je ne m'accrocherai à ce que nous avons fait de l'Église. Et c'est volontairement que je dis à ce que nous avons fait de l'Église, parce qu'on considère comme l'Église, ce n'est pas exactement ce que Dieu est venu établir. Mais, donc Éphésiens 3, 9, là, et 10 et 11 nous montrent que Dieu désire que par l'Église, la sagesse de Dieu soit révélée. Un autre passage que j'aimerais prendre, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc ici, il est en train de parler bien sûr du message de la réconciliation de Christ que nous devons continuer d'annoncer. Mais il utilise une image qui est parlante. Il dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs ». Un ambassadeur dans un endroit, c'est quelqu'un qui représente une nation ou parfois même une institution, parce qu'il y a des ambassadeurs dans des institutions, et qui va représenter, non seulement porter le nom de celui qu'il représente, mais en fait, il va être un reflet de la culture, de ce qu'il représente, et il va avoir quelque part l'influence de ce qu'il représente. Et quand on parle d'ambassadeur, ça vient appuyer cette notion que l'Église, c'est une ecclésia, c'est un gouvernement. Nous sommes les uns et les autres des ambassadeurs de Christ qui formons le gouvernement de Dieu sur la terre. Je rétablis quand même pour ne pas qu'il y ait confusion, les ordres nous viennent de Dieu. Et l'influence ou l'autorité du gouvernement que nous sommes ne fonctionne que dans la mesure où elle s'applique sur la parole. Notre autorité, notre influence, notre gouvernement ne peut être efficace et ne peut avoir du sens que s'il se base sur les principes de la parole de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de commencer à s'asseoir et faire des genres de groupes de réflexion qui vont se dire qu'est-ce qu'il serait bon de faire. C'est de prendre la parole et de voir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet. Et maintenant, d'aller influencer. Vous savez, la parole nous montre que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On est tous d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jésus est le roi de tous les rois sur la terre, ou de tous les seigneurs sur la terre, ou de tous les présidents, ou de tous les chefs d'État. D'accord ? Ce que la Bible nous montre, et lorsque nous disons Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, d'ailleurs la parole déclare qu'il a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs, ça c'est dans la notion spirituelle, mais il a fait de nous des rois et des seigneurs dans ce monde, puisque Jésus c'est mon roi, on est d'accord. Et en fait, en Christ, je suis un roi, et je suis un seigneur. Amen. Et il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, au sens où nous avons une autorité, une influence à exercer, à travers les passages qu'on a vus. On est en train de partager des vérités spirituelles. Et j'ai vraiment envie de prier pour vous et je déclare ce matin que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre. Je ne suis pas en train de m'adresser à l'intelligence. Je ne parle pas d'intelligence. Je ne suis pas en train de me prendre pour Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Vous êtes des dieux ». Mais si je me permettais, aussi un pasteur disait « On est des dieux », tout le monde allait crier au scandale. Mais je ne parle pas à votre intelligence, je parle à votre esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est saint, de ce qui est la parole. Moi, je prie vraiment que vous puissiez saisir des choses spirituelles ce matin, des choses dans votre esprit. Parce qu'on est en train d'avancer dans des choses où il ne faut pas juste réfléchir ou raisonner. Parce que sinon, on va se mettre des barrières. Parce que c'est vrai, ce n'est pas convenable de dire qu'on est un roi ou qu'on est un seigneur. C'est pas acceptable, je le sais. On m'a éduqué aussi, j'étais dans les églises, j'étais partout. C'est pas correct de le dire, mais je suis désolé, c'est ce que Dieu dit de nous. Donc si pour mon intelligence c'est pas correct, dans mon esprit je sais que c'est ce que Dieu dit de moi et ce qu'il veut que nous manifestons sur la terre. Et c'est à force de nous mettre des barrières de pas correct ou pas recevable ou trop choquant ou trop dérangeant que l'église est devenue ce qu'elle est et qu'elle est passée à côté de ce qu'elle était supposée devenir. Et aujourd'hui il est temps que nous laissions, comme j'ai dit tout à l'heure, remettre au droit. Et que nous osions relever le défi d'accepter ce que Dieu dit réellement de nous et de ce que Dieu dit réellement de l'Église. Un peu d'en avoir peur, vous savez, Dieu a pourvu à tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Et Dieu a pourvu et Dieu a mis en disponibilité toute la puissance, toute l'autorité, tout ce qu'il faut pour que l'Église puisse accomplir le but pour lequel elle a été créée. La seule chose qui manque, c'est que nous nous mettions en position, que nous disions « Ok, je comprends, j'accepte, et maintenant cette puissance va devenir disponible et efficace pour nous. » Et c'est ça le travail que le Seigneur est en train de faire, c'est de vous communiquer. Et je vous dis, il vaut beaucoup mieux être dans ce que Dieu fait que d'être à côté. parce que Dieu est à l'œuvre. Et lui, Dieu agit selon en accord avec ce qu'il dit. Donc il faut être dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu dit, il faut être dans le mouvement de Dieu. Des fois, je dis le mouvement actuel de Dieu, mais c'est ce qu'il a voulu faire depuis la Genèse. Et qu'il a voulu remettre en place avec Jésus et qu'il essaye de remettre en place aujourd'hui. Je ne prêche pas un nouvel évangile, je ne prêche pas un nouveau royaume, je prêche la parole et le royaume unique et éternel de Dieu, mais qui doit venir se manifester. Je vous rappelle que Jésus nous a dit de prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et vous pouvez être sûr qu'au ciel, sa volonté, elle est faite parfaitement. Mais sur la terre, à nous de faire en sorte que sa volonté puisse se faire. Que ton règne vienne. Un règne, quand on parle de règne, il y a toute cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de culture, de mentalité, que la volonté du souverain se réalise. Dans un royaume, le souverain, il dit quelque chose et c'est fait. Vos désirs sont des ordres, comme on dit. Donc, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu sur la terre, c'est d'avancer progressivement jusqu'à un point où la volonté de Dieu, le désir de Dieu, la pensée de Dieu se réalise sur la terre comme au ciel. Alors ça commence par ce qu'on a dit la semaine dernière, de rétablir la domination de Dieu dans notre propre vie. Ensuite, et c'est là que le travail est en train de commencer à se faire, de rétablir la domination de Dieu dans son Église, en refaisant de l'Église ce qu'elle est censée être, et ensuite à travers l'Église, toucher et agir dans ce monde. Ça c'est le plan de Dieu, sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous sommes plus que juste des croyants qui ont adhéré à une Église ou à une religion ou à un mouvement, mais nous sommes des personnes qui ont été appelées hors du monde, appelées hors des ténèbres pour gouverner avec Christ. En fait, pour amener le gouvernement de Christ à se réaliser. Vous savez, le royaume de Dieu, il ne fait pas partie du monde, mais il doit se manifester et il doit toucher ce monde. Il doit toucher ce monde. Matthieu 16, 18, donc il est dit, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et au verset 19, c'est Matthieu 16, hein. Il est dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc non seulement Dieu bâtit son église, mais il donne à son église les clés du royaume. Et une clé, ça représente des choses importantes. Quand vous avez une clé, la clé, ça représente l'autorité. La clé, ça vous donne la possibilité d'accéder à quelque chose. La clé, ça représente la possession. Si vous avez quelque chose qui est sous clé, vous ouvrez, vous possédez la chose et vous pouvez la renfermer. C'est vous qui pouvez soit ouvrir, soit fermer. En fait, Dieu nous donne les clés du royaume. Et ailleurs, dans l'Écriture, il est dit que le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Et c'est à nous qu'il appartient d'ouvrir, si on pourrait dire, comparer ça à un coffre, d'ouvrir ce coffre pour bénéficier de tout ce qu'il y a dans le royaume. Mais c'est nous aussi qui avons la clé pour ouvrir et pour exercer l'autorité afin que le royaume se manifeste sur la terre. Nous avons la clé. Et en passant, si c'est vous qui avez la clé, le Seigneur ne va pas le faire à notre place, puisque c'est nous qui avons la clé. Si je donne la clé à quelqu'un pour ouvrir la porte, c'est lui qui a la clé. Donc c'est à lui de la mettre dans le verrou et d'ouvrir. Mais je l'ai délégué pour ça. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. C'est lui qui est le roi éternel, c'est lui qui règne dans le ciel et veut établir son règne sur la terre, mais il nous donne la clé pour qu'à travers nous, le règne se réalise. Donc notre rôle, c'est plus celui qui va ouvrir la porte, si on peut dire, et amener ce royaume à se manifester. Et Jésus, lorsqu'il a été accusé, je vais terminer par là, il répondra à Pilate, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est vrai que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et dans Jean 17, quand Jésus prie, à un moment, il dit à son Père, ils sont dans le monde, mais on comprend à travers la parole de Dieu que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et en fait, c'est comme ça que le royaume doit se manifester. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous avons été appelés hors du monde pour être maintenant dans le royaume de Dieu. Hors du monde pour être dans le royaume ne veut pas dire qu'on doit s'isoler pour n'être qu'entouré de chrétiens ou n'être qu'entouré de gens du royaume ou ne faire que des choses dans le cadre du royaume, c'est n'avoir que des activités, entre guillemets, chrétiennes. Nous sommes appelés hors du monde, mais maintenant aussi envoyés au milieu du monde pour que ce que nous avons, pour que notre royaume, pour que nos valeurs commencent à toucher et à changer aussi le monde autour de nous. C'est un grand rêve de l'homme de changer le monde. Et ça te dire qu'avec la puissance de Dieu, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer déjà notre monde, c'est-à-dire changer notre environnement en pratiquant la parole, en amenant le royaume. En tant qu'Église, nous pouvons changer l'environnement autour de nous. Et en tant qu'Église universelle, nous pouvons changer le monde. Nous avons ce potentiel. Et petit à petit, que la vérité est rétablie, que nous comprenons qui nous sommes en Christ et notre autorité, on se rend compte qu'on prend de l'assurance et on n'a plus peur d'aller au milieu du monde. Les chrétiens qui ont peur du monde, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et ils ont peur que le monde les dévore. Mais quand tu commences à comprendre qui tu es, à t'appuyer sur la parole, tu te dis « qu'est-ce que j'ai à craindre ?» Même au milieu du monde, je n'ai pas à craindre parce que je sais qui je suis positionné. Et nous devons amener le royaume à se manifester. Donc l'Église, ou l'Ecclésia pour reprendre ce terme, est appelée à être c'est un rang d'autorité élevé dans ce monde. L'Église qui entre dans la compréhension et dans la réalisation de qui elle est, de pourquoi elle existe et de ce que Dieu désire faire, elle est le plus haut rang d'autorité dans ce monde. Il n'y a rien dans le monde qui soit plus puissant que l'Église. Rien. Il n'y a rien de plus élevé que l'Église sur la terre, bien aimé, parce que c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Mais il est temps maintenant que de cette position que Dieu a désignée pour son Église, il y ait une influence qui commence à se ressentir réellement et concrètement dans ce monde, parce que c'est ce que Dieu désire. Vous savez, c'est beaucoup plus que juste une question d'institution ou de croyance. Il y a vraiment une puissance. Et on va dire que l'Église n'est pas tout, mais l'Église est cruciale, est centrale. Quand nous commençons à comprendre ce qu'est l'Église, nous pouvons commencer à opérer dans toute la dimension du royaume de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est d'une certaine manière la plateforme que Dieu a choisie pour établir son règne sur la terre. Parce qu'il dit de prier, il nous dit de pratiquer la parole, pour que son règne vienne et sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc considérons l'Église pas comme une fin en soi, qu'en fait Dieu ne nous a pas fait sortir du monde juste pour se rassembler, il nous a fait nous rassembler pour qu'à travers l'assemblée, son règne vienne sur la terre. Et quand on prend conscience de ces choses, je crois qu'on a aussi notre approche de l'Église. On a parfois un sentiment d'appartenance qui va grandissant parce qu'on voit qu'il y a plus que juste faire des réunions. Et il y a aussi un sentiment d'engagement, un sentiment de responsabilité dans le plan que Dieu a formé pour nous. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous communiquer. Je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin, mais vraiment je prie que nous puissions comprendre réellement la teneur de ces messages. Parce que des fois, ça peut paraître simple, on comprend. Ou alors au contraire, ça peut nous défier, on peut se dire « mais attends, c'est pas ce que moi j'ai appris, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'entendre ». Ben oui, mais prenons le temps de nous placer vraiment devant le Seigneur, devant sa parole, pour comprendre, réaliser ce qu'il veut, et surtout faire partie de son plan. Et que nous puissions vraiment grandir en maturité, en puissance, et que l'œuvre du ministère, comme dit la parole, puisse se faire. Que l'Église, ça n'est qu'une partie. Éphésiens 4 et aussi 1 Corinthiens 12, qui dit que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, qui nous rappelle que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, c'est quoi? Eh bien, c'est continuer ce que Jésus a commencé. D'ailleurs, dans un des évangiles, il dit « Voilà en résumé ce que Jésus a commencé de faire, parce que tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir tout ce qu'il a fait. » Donc Jésus a commencé quelque chose. Vous savez, à chaque fois que Dieu commence quelque chose, il veut le terminer. Et donc ce qu'il a commencé avec Jésus, à savoir commencer à toucher la terre et le monde avec le royaume, il veut continuer de le faire avec nous, que nous continuions d'amener le royaume partout où nous sommes. Ça c'est le plan et le message de Dieu et c'est la raison d'être de l'Église. Donc vraiment prenons-en conscience et laissons-nous amener par le Seigneur pour aller jusqu'à cette maturité qui va nous permettre à tous et chacun de faire l'œuvre de Christ, d'amener le royaume, d'influencer, de toucher ce monde avec la parole de Dieu. Pour conclure, je vous relis juste ce verset qu'on a pris en référence au départ de cette prière et que ça puisse nous accompagner aussi, Matthieu 6, 10. « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Maintenant, à la lumière de tout ce que nous avons dit, je crois qu'on ne priera plus cette chose de la même façon. Que désormais, à chaque fois qu'on dise que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça puisse susciter en nous quelque chose et dire « Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que le règne vienne et la volonté se fasse ?» Que ce soit plus juste une récitation comme ça en attendant quelque chose d'abstrait, mais que nous commençons à réaliser que le plan de Dieu et sa volonté, ce n'est pas juste abstrait, c'est très précis et il nous en donne le plan. C'est pour ça que Paul, à un moment, pouvait dire « Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. » Parce que Dieu nous donne, Dieu nous montre ce qu'il veut faire. Paul a posé un fondement, maintenant nous devons nous y attacher, mais continuer de construire. D'ailleurs, il dira que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Donc que nous ne construisions pas de travers, et là où certains peut-être ont construit de travers, Dieu maintenant vient aussi redresser pour que nous puissions continuer de construire droit, comme il faut, et que nous devenions ce pourquoi nous existons. Amen. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.